Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal, Justine Moussa Opondé.
Visite hier en Ituri de la directrice exécutive de l'UNICEF. Catherine Russell s'est rendue au site des déplacés de Roé où vivent plus de 70 000 personnes, dont des enfants, et enfuit les exactions de la milice Codeco. Les magistrats qui s'évertuent à envoyer en prison des personnes en situation préventive sans procès ni condamnation s'exposent à des sanctions, annonce de la ministre de la Justice. Rose Mutombo veut ainsi mettre fin à la surpopulation carcérale. Père Rigobert Minani, chef de secteur de recherche et animation sociopolitique du Centre d'études pour l'action sociale, est notre invité. Le CEPAS vient d'initier à Kinshasa une série de débats autour de la compréhension des conflits en RDC, notamment avec la résurgence du M23. Bonjour à tous. La directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell, a visité l'Ituri hier mardi pendant quelques heures. C'est pour se rendre compte de la situation des déplacés et particulièrement des enfants victimes des atrocités des groupes armés dans cette province. Elle s'est rendue au site des déplacés de Roé, où vivent plus de 70 000 personnes qui ont fui les exactions de la milice Codeco. Catherine Russell a également échangé avec le gouverneur de province, des représentants des organisations humanitaires et certains membres de communautés locales avant de regagner dans la soirée la capitale de la RDC. Isaac Rimoyope, reportage.
Aussitôt arrivé à Bounia, la numéro 1 de l'UNICEF a été accueilli par les chefs de l'exécutif provincial, le général Johnny Kachama. Au cours de leur entretien, ces derniers ont adressé la situation sécuritaire dans la province et des efforts qui sont fournis par le gouvernement pour imposer la paix. La directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell, s'est ensuite rendue à Djougou, plus précisément au site des déplacés d'Héro, pour s'imprégner de la situation humanitaire dans la zone. Selon les comités des déplacés, ils vivent dans des conditions difficiles. Plus de 30 000 enfants en âge scolaire ne vont pas l'école depuis au moins 4 ans. Les mêmes décors s'observent aussi des boulets qui comptent plus de 60 000 personnes, dont plus de la moitié sont des enfants. Ils ont demandé à leur hôte de faire les plaidoyers auprès du gouvernement pour la restauration immédiate de l'autorité de l'État dans leur milieu d'origine pour mettre fin à leur calvaire. De retour à Bounia, la directrice exécutive de l'UNICEF a échangé avec les humanitaires et les communautés locales. Elle s'est rendue également au centre d'encadrement des enfants sortis des groupes armés à Délé avant de s'envoler pour Kinshasa où elle va rencontrer les autorités du pays. Bounia, Isaac Rimoyope, Radio Okapi.
Et puis, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies est depuis hier mardi en visite de travail à Kalemi dans la province du Tanganyika. Objectif, évaluer le processus de transition avec les autorités provinciales et les partenaires. Une activité qui rentre dans les cadres du retrait de la MONUSCO du Tanganyika. Après la réunion préparatoire de sécurité à l'aéroport, Bintou Keïta a eu deux séances de travail. Premièrement avec les autorités provinciales et en deuxième lieu avec le bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Que retenir de ces rencontres? Je vous propose le compte-rendu de François-Xavier Mibé.
Avec le gouverneur de province intérimaire, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a eu une première séance de travail au gouvernorat. Les discussions ont tourné autour des questions liées à la coopération pour le développement du Tanganyika après le retrait de la MONUSCO de la province. Il y a aussi à ces points des questions sur la justice transitionnelle et la cohésion sociale entre communautés. Bintou Keïta.
La potentialité de cette province est tellement importante que asseoir définitivement la paix et la sécurité, c'est fondamental.
Bintou Keïta est à sa quatrième visite de travail au Tanganyika depuis sa nomination survenue en janvier 2021 comme représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Le gouverneur intérimaire du Tanganyika s'est dit satisfait de l'action de la MONUSCO au Tanganyika.
Pour pouvoir pérenniser l'action de la MONUSCO, il n'y a qu'une seule conclusion qui a été prise, de continuer avec la collaboration étroite entre les différentes forces et services gouvernementaux ainsi que les organisations des Nations Unies qui pourront rester sur place afin de s'assurer de l'effectivité de cette pacification.
À l'Assemblée provinciale du Tanganyika, par contre, le renforcement du partenariat entre l'organe délibérant provincial et la mission des Nations Unies a été au menu des discussions. Kalemie, François Diabimbe, Radio Okapi.
À New York, le secrétaire général de l'ONU ainsi que les membres du Conseil de sécurité condamnent fermement l'attaque perpétrée hier mardi contre des casques bleus de la MONUSCO à Bali, territoire de Djougou en Ituri, par des membres présumés de la milice Codeco. L'attaque a coûté la vie à un casque bleu népalais. Le secrétaire général et les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies expriment leurs plus sincères condoléances à la famille du casque bleu décédé ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Népal. Il rappelle que les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre. Ils appellent les autorités congolaises à enquêter sur cet incident et à traduire rapidement les responsables en justice. Le secrétaire général et les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirment que l'ONU, par le biais de sa représentante spéciale en République démocratique du Congo, continuera à accompagner le gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts visant à instaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays. Au Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru, une première mission d'évaluation de la situation humanitaire séjourne au chef-lieu de ce territoire depuis hier mardi. Elle regroupe quelques agences des Nations Unies, notamment le PAM, OCHA, HCR, sous escorte de la force de la MONUSCO. L'objet de cette descente sur le terrain est d'évaluer les besoins et éventuellement identifier les bénéficiaires potentiels. Des détails sur cette mission avec Sifa Maguro.
Une première rencontre de cette mission conjointe avec les autorités coutumières, la société civile et d'autres intervenants locaux. En prélude à cette mission, la société civile de Rutshuru avait estimé que 40 000 ménages composés de plusieurs personnes avaient trouvé refuge dans les Rutshuru, sans compter celles qui sont allées en Ouganda, fuyant les affrontements entre l'M23 et les FARDC dans le groupement de Djomba. Toutes ces personnes n'avaient pas encore reçu d'assistance jusqu'ici. Beaucoup d'entre elles passaient la nuit à la Belle Étoile, dans les écoles et l'intérieur d'édifices publics. En dépit de cette atmosphère de précarité, à Bunagana, certaines familles qui avaient fui en Ouganda tentent de regagner les milieux depuis ce mardi. Selon la société civile de la place, les familles ne veulent pas se rendre dans les camps de réfugiés situés à Nyakande, à Kisoro, 18 km de la frontière, un camp offert par le gouvernement ougandais. Goma Sifa Maguro, Radio Okapi.
La ministre d'État en charge de la justice s'est dit déterminée à mettre de l'ordre dans son secteur à la suite du constat fait sur le dysfonctionnement entre les réalités au niveau de la prison centrale de Makala et celle des registres des magistrats. Certains magistrats du parquet s'exposent à des sanctions annoncées par cette autorité. Après sa ronde dans diverses juridictions de la capitale et à la suite de sa visite à la prison centrale de Makala, Rose Mutombo tend à élargir ses visites d'inspection à toutes les prisons du pays pour mettre fin aux anomalies décelées, notamment ne détenir en prison que les personnes condamnées au lieu des prévenus. Jeff Ngoy nous fait le point.
Quelques magistrats des parquets de Kinshasa sont dans les viseurs de la ministre. Ils s'évertuent à envoyer à Makala des personnes en situation préventive sans procès ni condamnation, ce qui contribue souvent à la surpopulation carcérale. La situation est pareille en province. À l'issue d'une séance de travail hier avec le ministre provincial de la Justice du Congo central, celui-ci a exposé plusieurs problèmes liés à la surpopulation carcérale, à la ration des pensionnaires et à l'administration des agents judiciaires dans sa province. Le tableau est chaotique selon le ministre provincial Patrick Yala. Il y a des détenus qui ont passé plusieurs semaines ou mois sans être présentés devant leur juge, a-t-il déclaré. Par exemple, les prisons centrales de Boma et Luozi, construites en 1905, ont largement dépassé leur capacité d'accueil. Les bâtiments sont devenus vétustes, entraînant une série de chaos déplorés. La garde des Sceaux a fait savoir que les fonds alloués aux prisons pour l'alimentation des pensionnaires et l'entretien avaient toujours été mal répartis et parfois détournés. Mais elle affirme avoir décanté la situation. Toutefois, le problème se pose encore au niveau de l'administration de la justice dans cette province.
Le même exercice s'est poursuivi cette fois-ci avec le gouverneur du Katanga, du Haut-Katanga. Outre les conditions carcérales dans sa province, Jacques Kiaboula demande à la ministre d'installer un tribunal de grande instance à Kasumbalesa.
Les 13 militants de la Lucha, condamnés vendredi dernier à 12 mois de servitude pénale principale par les tribunaux militaires de garnison de Beni, ont fait appel de la décision. Selon les sources du greffe de cette juridiction, les militants de la Lucha s'opposent à leur condamnation au premier degré. Cette source précise que le dossier sera transmis au greffe de la Cour militaire du Nord Kivu pour que cette juridiction statue en deuxième ressort. L'appel, faut-il le rappeler, suspend immédiatement l'exécution de la peine prononcée au premier degré. Notons que les 13 militants de la Lucha étaient condamnés pour désobéissance aux lois de la République pour avoir manifesté le 11 novembre 2021 contre la 12e prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. À Kinshasa, de longues files de véhicules ont été observées encore hier mardi dans plusieurs stations-service. La difficulté d'accès à l'essence constatée depuis le week-end dans la capitale demeure bien que certaines stations aient été ravitaillées le lundi en fin de journée, selon le ministre des Hydrocarbures. Dans ce reportage, Jean-Francis Mouyano décrit la situation qui a prévalu hier mardi.
Bien que dans certains coins de la capitale, la situation relative à la difficulté d'accès à l'essence au sein des stations-service soit légèrement améliorée, c'est tout le contraire dans d'autres par contre. C'est notamment le cas dans la commune de la Gombe. Selon certains conducteurs, c'est parce que les quelques stations qui ont pu se ravitailler n'ont pas reçu une quantité abondante d'essence. Cela inquiète de plus en plus la population ainsi que les automobilistes qui ne cessent de se plaindre.
La situation aujourd'hui, elle est comme hier. La situation est difficile. L'accès pour avoir quelques litres d'essence, c'est très difficile. Là, personnellement, j'ai dû patienter près d'une heure et c'est par chance, je veux dire. Parce que je revenais déjà d'une station vers Sosimat, il n'y avait rien. Et là, j'ai vu un camion de ravitaillement de la CEP. Et j'ai dû rester. Mais j'ai passé une heure une heure de pause. Et ce n'est pas une situation intéressante, ça dérange énormément.
Notez que concernant son prix de vente, aucune augmentation n'a été déclarée de la part des autorités compétentes.
La ministre des Mines était hier mardi à la Chambre haute du Parlement. Invitée dans le cadre du contrôle parlementaire, Antoinette Samba est allée répondre à la question orale avec débat lui adressé par la sénatrice Victorine Louissé suite au refus des deux sociétés exploitant les minerais au sud Kivu de recevoir dans leurs installations une mission de l'État congolais conduite par le ministre provincial des Mines du sud Kivu. 45 sénateurs ont exigé des explications de la ministre sur notamment l'exécution du code minier, du fonds minier pour les générations futures, de la traçabilité et la quantité annuelle de minerais exploités en République démocratique du Congo. On écoute ici la sénatrice Victorine Louissi au micro de Michel Kifindangoy.
Madame la ministre, je voudrais savoir, depuis la diffusion de ces images choquantes et inadmissibles, si votre ministère a pu identifier ces deux sociétés. Si tel est le cas, est-il stipulé dans les codes contrats signés par les deux sociétés que durant la période d'exploitation, il ne peut y avoir ni visite ni contrôle qu'exerceraient les agents de la direction provinciale de mines dans les installations de ces sociétés? Par ailleurs, au vu de ces images rappelant l'exploitation sauvage, quelles sont les mesures qui ont été prises par votre ministère à la fois pour démontrer que l'État n'est pas mort et les codes miniers restent des ouvrages d'application? C'est pourquoi l'exploitation et l'importation des minerais en rupture avec les codes miniers méritent que la légende des Sénats soit éclairée. L'exploitation des minerais doit profiter non seulement aux Congolais d'aujourd'hui, mais aussi à ceux de demain. C'est la raison d'être du fonds minier.
La ministre des Mines sera de retour au Sénat le lundi prochain pour apporter des réponses aux préoccupations des sénateurs. Aujourd'hui, dans notre série de reportages sur les universités, nous parlons de l'université Mapon de Kindu dans la province du Maniema. Ce pôle scientifique et technologique de premier plan RDC dispose des infrastructures adéquates favorisant les activités de loisirs et un plan de formation doctorale pour son corps scientifique en partenariat avec les universités étrangères. Avec une capacité d'accueil de plus de 4000 étudiants dont près de 400 peuvent loger dans les 4 homes bien équipés, l'université Mapon a l'ambition de se positionner comme leader dans les domaines de la recherche appliquée et de l'innovation technologique en Afrique subsaharienne. Florence Kizalunga, reportage.
Grâce à ses infrastructures imposantes et ses équipements didactiques et informatiques répondant aux normes internationales, l'Université Mapan organise la faculté des sciences économiques et de gestion ainsi que la faculté des sciences de l'ingénieur ou des polytechniques avec ses 4 départements. Elle dispose de plusieurs laboratoires pour la pratique de ses étudiants qui se disent satisfaits.
On offre un bon cadre d'études, un enseignement de qualité et non seulement tu apprends beaucoup en étudiant mais aussi tu apprends beaucoup en vivant en communauté avec les autres.
J'ai quitté mon pays, l'Angola, pour venir ici parce que l'université Mapan, il y a une très bonne qualité d'enseignement. On pense d'abord le travail. On nous pousse à travailler. Ici, il n'y a pas du favoritisme.
Les secrétaires académiques pensent déjà à l'élargissement des hommes. Professeur Piton Kabeya.
Pour bien accueillir nos étudiants, nous avons un beau cadre qui est déjà là pour les enseignements et nous pensons compléter des hommes et aussi en ce qui concerne les enseignements, nous pensons compléter notre plateau technique de laboratoire avec des labos qui peuvent bien permettre à nos étudiants de bien assimiler les matières.
Notez que ces bijoux au cœur de la RDC est une université privée. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le chef de la diplomatie russe a estimé hier mardi que la découverte des cadavres dans la ville ukrainienne de Boutcha était une provocation visant à faire échouer les négociations en cours entre Kiev et Moscou. Une question se pose, à quoi sert cette provocation ouverte et mensongère? Nous sommes amenés à penser qu'elle sert à trouver un prétexte pour torpiller les négociations en cours, a affirmé Sergueï Lavrov dans un message vidéo diffusé à la télévision russe.
L'invité.
L'invité de ce journal est le père Rigobert Minani, chef de secteur de recherche et animation sociopolitique du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS. Le CEPAS vient en effet d'initier à Kinshasa une série de débats autour de la compréhension des conflits en RDC, notamment avec la résurgence du M23. Le père Rigobert Minani s'entretient avec Jean-Désiré Kanyama.
Rigobert Minani Biouzo, bonjour.
Bonjour.
Un débat sur la compréhension des conflits en RDC, c'est pour quel objectif pour le CEPAS?
Pour le CEPAS, on a remarqué c'est que malgré la gravité de la situation des conflits à l'Est, on a l'impression que l'opinion à l'Ouest, principalement à Kinshasa, dans les milieux officiels comme dans les milieux de la société civile et des chercheurs, on n'en parle pas. On voit plus de 10 000 personnes sur la route de Bunagana, des réfugiés, mais c'est comme si c'était un fait anonyme. Et ça, ce n'est pas acceptable pour un pays.
Aujourd'hui, que cache cette résurgence du M23?
Le M23, c'est vraiment un arbre qui cache la forêt. Et donc, sa renaissance aujourd'hui, de façon pratique, c'est à cause de l'échec des négociations qu'ils ont faites dernièrement à Kinshasa avec le régime au pouvoir ici à Kinshasa. Mais fondamentalement, chaque fois qu'ils émergent comme cela, c'est souvent pour pouvoir pousser une cause qui va bien au-delà de ce que l'on voit. Pour moi, le M23 aujourd'hui, c'est un épiphénomène et il est important d'aborder la question en profondeur, en connaissance des causes structurelles de ces conflits, déclencheurs de ces conflits et des causes aggravantes de ces conflits. Et à mon avis, c'est ce qu'on ne fait pas pour le moment.
Le FARDC accuse les forces de défense rwandaises explicitement de soutenir le M23 et le Rwanda, ni catégoriquement. Quel est votre avis?
Le Rwanda ne dira jamais qu'il est venu au Congo. Il n'a jamais dit ça. Et donc, il ne faut jamais attendre que le Rwanda vous dise qu'il est là. Mais tout le monde sait que chaque fois que le M23 entre en mouvement, il trouve les armes quelque part, il trouve les munitions quelque part, il a une base arrière, il trouve la ration militaire quelque part.
Dans l'actualité aussi, les présidents rwandais et congolais venaient de s'entretenir en Jordanie. Et peu après, c'était à tête, le M23 réapparaît subitement de ses cendres. Est-ce un fait de hasard?
À mon avis, c'est ce que nous connaissons un peu dans la diplomatie de mensonges hein, qu'on vit dans la sous-région depuis très longtemps. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a quelques mois, le président rwandais a déclaré devant son parlement que le problème pour lui, c'était le Congo, que le problème commençait au Congo et qu'il allait entrer au Congo, qu'il avait des hommes pour pouvoir le faire. Je ne pense pas que le président Tshisekedi avec Kagame ont parlé en détail de cette question-là. Et probablement que c'est parce qu'ils ne sont pas parvenus à s'accorder que le M23 a reçu l'ordre de pouvoir faire bouger les lignes.
Pensez-vous que la mutualisation de forces ougandaises et congolaises pourrait frustrer le Rwanda jusqu'à l'amener à soutenir le M23 pour ce cas précis?
C'est difficile de le dire. Il est clair que le Rwanda a ses intérêts au Congo, l'Ouganda a ses intérêts au Congo. Et chaque fois que le Rwanda occupe une position prépondérante, comme c'est le cas depuis un certain moment, l'Ouganda est frustré. Et maintenant que l'Ouganda est revenu en force, plus ou moins, peut-être sans avoir pris soin de pouvoir négocier négocier les modalités avec le Rwanda. Le Rwanda est de mauvaise humeur. Pour le Congo, déjà le fait qu'un pays sous-traite sa sécurité, c'est quand même assez grave. Et on devrait être à mesure de questionner cela.
Vous ne connaissez pas une guerre comme à Kisangani entre les forces rwandaises et ougandaises plus tard?
C'est une possibilité. On a bien vu que les forces ougandaises se sont battues avec le M23 à Bounagana. Et donc, ça peut commencer comme cela.
Que faire pour résoudre ces multiples conflits avec cette guerre interminable qui a plus de 20 ans?
Je pense que la première chose que le Congo doit faire, c'est de se faire sa propre doctrine de sécurité. Le Rwanda, on sait exactement ce qu'il veut. Il a un certain nombre de réclamations qu'il met sur la table. Le Congolais, depuis plusieurs années, ils essaient de négocier avec eux sur ces questions-là qui sont des faux fuyants du problème. Le Congo doit avoir le courage un jour de se mettre à table avec le Rwanda et qu'on aborde les questions de façon franche. Jusqu'à présent, tout le monde fait le faux fuyant et ça ne va pas aider à quoi que ce soit.
Quelles sont les revendications du Rwanda selon vous?
Le Rwanda dit qu'il n'est pas là. Donc le Rwanda pousse des groupes proxy qui viennent, qui déstabilisent le pays. Mais derrière ces questions, on sait bien que le Rwanda, depuis plus de 20 ans maintenant, a constitué l'Est du Congo comme sa zone tempo et sa zone opérationnelle et qu'il manipule les groupes, il entre comme il veut, il déstabilise la situation là-bas sur place, sous prétexte, et c'est selon la doctrine au moins rwandaise, Kagame l'a dit dans sa déclaration, que leur pays est trop petit, ils vont faire la guerre là où c'est possible, et au Congo il y a de l'espace.
Il y a aussi des enjeux économiques selon vous?
Oui, les enjeux économiques c'est fortement documenté dans toutes les publications, ma dernière publication est revenue là-dessus. La question de minerais par exemple, pour nous, nous appelons ça, c'est un carburant de guerre, ce qui permet à la guerre de continuer. Et le Rwanda en a fait un objectif stratégique pour lui, une partie du Rwanda aujourd'hui a été construite avec l'argent du pillage du Congo, tout le monde le sait.
Vous parlez effectivement de votre dernière publication et tous ces éléments se retrouvent dans ce récent livre. Où le trouver? À quel prix?
Le livre qui est intitulé « Les défis de la construction de la paix » en RDC est vendu à la librairie du CEPAS. Pour les instituts, le livre est vendu à 100$. De façon personnelle, le livre est 50$. Et pour les étudiants, il sera vendu sous paix à 20$.
Gobert Minani, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.